Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute.
Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver de nouveau dans l'émission Patchwork sur Esprit Occitanie. En phase avec l'actualité du monde du travail, je vais vous parler dans cette chronique Happy Work de l'évolution, ou plutôt de la révolution, du télétravail. Et comme le sujet mérite d'être un peu détaillé, je vais aujourd'hui vous expliquer son histoire et ses limites, et j'évoquerai la semaine prochaine ses avantages et pourquoi, à mon sens, la pratique va perdurer. Tout d'abord, le télétravail, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est le fait d'effectuer tout ou partie de son activité professionnelle à distance de son lieu de travail, généralement depuis son domicile, mais également de manière dite nomade, c'est-à-dire depuis un bureau annexe ou un espace de travail partagé, c'est ce qu'on appelle des espaces de coworking. Le Code du travail français définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Comme toute définition, chaque mot a son importance. Nous avons bien compris que le télétravail s'effectue en dehors de son entreprise, par choix du salarié, c'est important, et non de façon imposée, sauf en cas de force majeure, comme durant le confinement, et en ayant des moyens adéquats pour pouvoir travailler correctement. La première ébauche du télétravail apparaît en 1950, quand un architecte supervise depuis l'Europe la construction d'un bâtiment aux États-Unis en utilisant des moyens de transmission de données pour suivre l'avancée des travaux. Dans la réalité, il y a longtemps que la pratique du télétravail a vu le jour dans les entreprises françaises, puisqu'elle a été mise en avant par nos pouvoirs publics dès les années 70. Qui voyait un mode intéressant d'aménagement du territoire. Et c'est un article du Washington Post en 1972 qui évoque le premier le terme de télework grâce à une utilisation du téléphone et du fax. C'est dans les années 90, avec l'émergence d'Internet, avec l'utilisation accrue des ordinateurs, le développement des autoroutes de l'information, des téléservices, avec la mondialisation de l'économie également, que ce mode de travail alternatif va véritablement émerger. Il devient un outil de délocalisation pour réduire les coûts et une nouvelle pratique de management soutenue par la Commission européenne. Dans les années 2000, le télétravail commence à s'inscrire dans la stratégie des entreprises, mais il manque de régulation légale et organisationnelle et se concentre finalement dans certains secteurs d'activité comme l'informatique et le conseil, et souvent de manière informelle. C'est pourquoi il va s'imposer en 2002 grâce à un accord cadre européen signé par les partenaires sociaux qui permet désormais aux télétravailleurs d'avoir les mêmes droits que ceux effectuant leur travail dans les locaux de leur entreprise. En France, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 vont finalement reconnaître le télétravail comme une méthode de travail encadrée par le Code du travail et qui donne un statut et des droits aux télétravailleurs. Alors pourquoi cet engouement du télétravail ? Bien sûr, rien n'aurait été possible sans le développement des nouvelles technologies qui permettent au plus grand nombre de travailler à partir d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Mais c'est surtout les aspects bénéfiques qui découlent de cette pratique qui contribuent à son développement. Une étude réalisée en 2017 auprès de 25 000 personnes dans 12 pays, dont 2 300 en France, montre que la confiance et l'autonomie qui en découlent participe à une meilleure productivité du collaborateur en télétravail. Une autre enquête, menée un an plus tard par l'Observatoire du télétravail, abonde dans le même sens. 86% des sondés constatent une augmentation de la productivité et, quasiment équivalent, 84% une augmentation de la qualité du travail produit. Mais la France reste très en retard dans la pratique du travail à domicile par rapport aux pays scandinaves et anglo-saxons. Avant le confinement, 20% environ des salariés français pratiquaient le télétravail malgré les assouplissements législatifs de ces dernières années. En fait, il y a une réelle réticence des entreprises et des managers à ne plus voir leurs salariés travailler, finalement à ne plus pouvoir les contrôler. Et là, nous touchons à nos injonctions culturelles, celles qui, depuis l'école, nous obligent à rendre des comptes, à montrer que nous travaillons, que nous faisons nos devoirs, que nous sommes notés, évalués, contrôlés dès notre plus jeune âge. Et le manager, de façon plus ou moins consciente, peut imaginer qu'il devient inutile, qu'il ne sert plus à rien si son rôle historique de contrôle n'existe plus. Quelle devient alors sa légitimité ? Il devra forcément passer du contrôle à la confiance et laisser une grande part d'autonomie aux salariés. Pourtant, le confinement lié au coronavirus a conduit des millions de salariés français à expérimenter le télétravail, à temps complet qui plus est, puisqu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail. Jugé comme une découverte, un passage forcé, un soulagement, une opportunité, chacun a vécu l'expérience de façon différente. Et le contexte a en tout cas imposé aux chefs d'entreprise des pratiques qu'ils pensaient impossibles il y a encore quelques mois. Mais il faut bien reconnaître que l'expérience n'a pas été de tout repos. Il a fallu aménager un espace de travail à domicile en quelques jours, gérer la promiscuité familiale, les devoirs des enfants, les aléas techniques, nombreux d'ailleurs bien souvent, et surtout, une organisation totalement nouvelle et exceptionnelle. En plus de l'anxiété due au contexte, chacun a dû s'autodiscipliner pour s'organiser. Car une des clés du succès du télétravail réside dans une certaine rigueur. Rigueur dans ses horaires et son emploi du temps, dans la priorisation de ses tâches, dans l'organisation de ses relations avec ses collègues, etc. Et justement, c'est le manque d'interaction qui a été le plus difficile pour la majorité des télétravailleurs. Et ce lien social commence dès le réveil, avec les petits rituels du matin pour se préparer à aller travailler. Or, chez soi, les codes vestimentaires, l'étape du maquillage, coiffage, volent en éclats. D'ailleurs, à ce titre, les ventes de produits cosmétiques, parfums et maquillage ont vu leurs ventes s'écrouler pendant le confinement. La préparation psychologique professionnelle, entre guillemets, n'existait plus pour beaucoup qui passaient directement du lit à l'ordinateur. Je voulais déjà évoquer dans cette rubrique, donner du sens à son travail est important. Le fait de présenter ses avancées à son équipe, à ses collègues, à son manager, permet de se sentir valorisé, d'être utile. Malgré tout, selon plusieurs sondages, 60% des Français voudraient continuer à faire du télétravail après le confinement. Ils mettent en avant un gain de temps, de productivité, d'autonomie. Mais je vous propose de vous en reparler un petit peu plus en détail la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site cbo-conseil.com et bien sûr en podcast sur Esprit Occitanie. À toutes et à tous, allons-y pour ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Je me suis dit que cette saison, je pourrais aussi vous faire quelques portraits de juristes célèbres. Et cette semaine, j'aimerais vous parler d'une grande juriste qui nous a récemment quittés et en profiter pour faire un peu de droit comparé. Cette grande dame dont je parle, c'est Ruth Bader Ginsburg, surnommée RBG par nos amis américains. Ruth Bader Ginsburg est née le 15 mars 1933 à Brooklyn et est décédée le 18 septembre 2020 à Washington, D.C. Avocate, juriste, universitaire et juge américaine, elle était membre de la Cour suprême des États-Unis de 1993 à 2020. Elle est la deuxième fille de Nathan et Celia Amsterbader, immigrants juifs russes qui vivent dans le quartier de Flatbush. Sa mère, qui n'a pas pu accéder à l'université, l'encourage à poursuivre ses études. Ruth fait ses études secondaires à la James Madison High School de Brooklyn. Elle poursuit ensuite à l'université Cornell à Ithaca, dont elle est diplômée en 1954. Elle est membre de la sororité Alpha Epsilon Phi et du club Phi Beta Kappa. Et c'est dans ce cadre qu'elle fait la connaissance de Martin Ginsburg, qu'elle épouse en 1954. RBJ poursuit ensuite ses études à la faculté de droit de Harvard en 1956, et elle est l'une des 9 étudiantes de sa promotion, et le doyen demande aux rares femmes admises pourquoi elles viennent prendre la place d'un homme compétent. Je vous laisse apprécier. Elle étudie ensuite à la Columbia Law School, où elle obtient son doctorat en droit en 1959. Elle est membre du comité de 2 revues juridiques, la Harvard Law Review et la Columbia Law Review. En 1970, RBJ cofonde le Women's Rights Law Reporter, premier journal américain qui se concentre exclusivement sur les droits des femmes. En 1972, elle poursuit sa lancée et cofonde le Women's Rights Project dans les locaux d'une association appelée Union américaine pour les libertés civiles. Ce projet travaille sur plus de 300 cas de discrimination sexiste. Ginsburg fait valoir 6 cas de discrimination devant la Cour suprême entre 1973 et 1976 et elle remporte 5 victoires. De 1972 à 1981, RBJ enseigne à l'Université Columbia. Elle est co-autrice d'un ouvrage sur les discriminations sexistes et de 1977 à 1978, elle est chercheuse au Centre pour les études avancées en sciences du comportement à l'Université Stanford. Elle est professeure de droit à l'Université Rutgers à Newark et à l'Université Columbia. Elle sera nommée juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia le 14 avril 1980 par le président Jimmy Carter, juridiction qu'elle quitte lorsqu'elle est nommée à la Cour suprême en 1993. Cette nomination à la Cour suprême est faite par le président Bill Clinton. Elle est alors la deuxième femme à siéger à la Cour après Sandra Day O'Connor. Elle est considérée comme modérée lors de sa nomination, mais évolue vers des prises de position progressistes. En 2009, elle donne son point de vue concernant les droits à l'avortement et à l'égalité des sexes dans une interview du New York Times. Elle déclare ainsi à propos de l'avortement que le gouvernement n'a pas à faire ce choix pour une femme. Et ce décès a malheureusement un impact plus lourd que la disparition d'une grande juriste. À 45 jours de l'élection présidentielle américaine, cela risque d'entraîner des conséquences assez lourdes sur l'échiquier politique américain, car une nouvelle nomination à la Cour suprême a des conséquences différentes s'il s'agit d'un président démocrate ou républicain. Alors, comment sont nommés les juges à la Cour suprême? Mais encore et surtout, d'abord, qu'est-ce que c'est que la Cour suprême? Elle est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis et le tribunal de dernier ressort. C'est l'article 3 de la Constitution des États-Unis qui institue une Cour suprême et autorise le Congrès à instituer des tribunaux inférieurs. Alors, les compétences de la Cour ne sont pas explicitement fixées par la Constitution en elle-même, mais ressortent de l'interprétation que la Cour en a faite au fil du temps. La Cour suprême est compétente dans tous les cas relevant de la Constitution ou des lois des États-Unis et des traités qu'ils ont conclus. Elle décide en première instance, dans quelques rares cas, affaires impliquant un des États de l'Union, un État ou un diplomate étranger. Pour toutes les autres affaires, elle n'a aucun pouvoir. Elle décide si les lois des États-Unis ou celles des différents États sont conformes à la Constitution, dont elle est l'interprète ultime. C'est aussi elle qui définit finalement les droits fondamentaux des citoyens, parfois de façon extensive, parfois de façon restrictive, et les protège en tout état de cause. Et c'est d'ailleurs sur ce point que la nomination d'un nouveau juge est importante. Alors, le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis est fait a posteriori de façon concrète et diffuse. Explication. A posteriori, ça veut dire que ce contrôle a lieu après que la loi ait été promulguée. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Concret, c'est-à-dire que la constitutionnalité d'une loi n'est examinée que dans le cadre d'une affaire particulière. Il est alors possible que la loi soit jugée totalement ou partiellement inconstitutionnelle pour des raisons de légalité externe, elle a par exemple été adoptée par une autorité qui n'en avait pas le pouvoir, ou interne, son contenu contrevient aux dispositions de la Constitution, par exemple aux droits fondamentaux. Sur ça, on retrouve un petit peu le contrôle effectué en droit administratif français. La décision de la Cour s'applique aux parties à l'affaire jugée. Elle n'est pas censée abroger la loi, mais cependant, vu le système juridique et judiciaire américain, elle constitue un précédent que les autres tribunaux doivent appliquer, ce qui rend ipso facto la loi censurée inapplicable. Enfin, dernier élément, le contrôle est diffus. tous les tribunaux, quels qu'ils soient, fédéraux ou d'État, et pas seulement la Cour suprême, peuvent examiner la constitutionnalité d'une norme juridique. Vous voyez qu'on est dans un système bien éloigné de notre Conseil constitutionnel, qui exerçait un contrôle seulement a priori, abstrait et centralisé, avant l'intervention de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a institué la question prioritaire de constitutionnalité, appelée QPC dans le jargon des juristes. Alors, quid de la nomination de ces juges justement à la Cour suprême ? C'est le Congrès qui fixe par loi le nombre des juges qui siègent à la Cour suprême, 7 à l'origine et 9 depuis 1869. Ils sont nommés à vie par le président des États-Unis avec le consentement du Sénat, la majorité qualifiée des 3/5. Parfois, l'approbation du Sénat peut être refusée, mais peu de candidats sont ainsi rejetés. Les juges prennent généralement leur retraite à un âge avancé et, si possible, lorsqu'un président issu de leur parti occupe la Maison-Blanche. Et on comprend donc tout l'enjeu politique de la nomination. Parce que comme c'est la Cour et donc ces juges qui définissent finalement les droits fondamentaux des citoyens américains et qui les protègent effectivement, selon la tendance politique de la Cour et de leur président, eh bien les conséquences ne vont pas être les mêmes sur les droits fondamentaux. Alors, dans une décision relativement récente, qui date du 29 juin 2020, la Cour suprême a invalidé une loi de Louisiane très restrictive, qui visait à empêcher les médecins de pratiquer des avortements s'ils n'avaient pas des droits qui leur permettent de faire admettre des patients à l'hôpital et de les soigner pendant leur séjour. Cette loi, votée en 2014 par la législature de Louisiane à majorité républicaine, était conçue en fait pour faire fermer des cliniques et saper les droits d'accès à l'avortement. C'était une loi similaire à une loi texane qui avait déjà été invalidée par la Cour suprême en 2016 pour son anticonstitutionnalité, estimant qu'elle était en violation d'un arrêt appelé Roe contre Wade, qui avait reconnu en 1973 le droit des femmes à avorter aux États-Unis. John Roberts, le chef de la Cour, s'est appuyé sur ce précédent pour se ranger du côté des juges progressistes, et la décision de déclarer cette loi illégale a été prise à 5 voix contre 4. Vous voyez donc que l'enjeu de la tendance politique des magistrats est un vrai enjeu et que la prise de décision peut être extrêmement tendue. C'est la première fois depuis son arrivée à la Cour en 2005 que le président a pris une position en faveur de l'avortement. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans les médias, vous voyez qu'il y a toujours beaucoup d'attentes aux États-Unis autour des décisions de la Cour suprême et de l'inflexion politique qu'elles vont avoir. Alors, cette décision avait valeur de test pour la Cour qui se penchait pour la première fois sur ce sujet qui est très clivant aux États-Unis depuis qu'elle avait été profondément remaniée par le président Trump. Le président a nommé 2 juges conservateurs depuis son arrivée à la Maison-Blanche, ce qui a ancré l'institution résolument à droite. Et vous comprenez qu'avec Donald Trump toujours au pouvoir, eh bien il se pourrait que, selon le juge qu'il nommera pour remplacer RBJ, le risque est grand de voir la Cour suprême basculer complètement du côté hyper-conservateur, avec d'importantes conséquences pour les droits fondamentaux, notamment comme le droit à l'avortement, mais d'autres également. Le président américain a annoncé qu'il donnerait sa décision samedi 26 septembre, soit le lendemain d'enregistrement de notre émission. Vu le personnage, on peut en douter. Le suspense sera donc levé ces prochains jours, mais je pense que vous avez largement compris que l'enjeu est grand, très grand, pour les droits fondamentaux dans les mois qui viennent. Alors n'hésitez pas à commenter et débattre sur cette chronique, sur la page notamment Facebook d'Esprit Occitanie. J'aurai grand plaisir à lire vos commentaires et éventuellement à y répondre. Le débat reste quelque chose de primordial et d'important. Si vous souhaitez nous réécouter, eh bien retrouvez cette chronique et l'ensemble des chroniques du Patchwork ce soir à 23h et aussi mercredi matin à 10h et bien sûr dans notre bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. On se retrouve la semaine prochaine et maintenant je vous laisse en compagnie de notre lectrice d'Occitanie et de Superman.
Bonjour à tous, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Comme je vous l'avais promis il y a 15 jours, nous allons maintenant, et pour de vrai, partir à Mexico. Je poursuis donc la lecture du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Nogués aux éditions Kern. Vous en avez pris l'habitude, nous allons démarrer par un couplet de la chanson de Luis Mariano, « Mexico ».
On oublie tout dans le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux.
J'avais encore mis du temps à m'endormir. Je voyais les images de cette journée défiler et défiler sans cesse. J'aurais tant voulu que ce soit comme un rêve, que je me réveille, que mon frère soit là, vivant, et qu'enfin, après plus de 30 ans séparés, nous nous retrouvions. Dans ma tête embrumée, tournaient aussi des moments partagés de notre enfance, des chamailleries autour d'un baby-foot, pour savoir si la cuillère était conforme ou s'il s'agissait d'une reprise des demi. Revenaient aussi les points litigieux, disputés lors d'un bec-à-bec sur le terrain de pétanque face à notre immeuble. Réapparaissaient encore les affrontements pour savoir si ma tartine de pain, beurre, fausse KO, respectait l'ordre, était plus grosse que la sienne. De temps en temps, je percevais les mouvements de Consuelo. Elle s'était tournée aussitôt de son côté, sans me dire le moindre mot. Cette nuit-là, elle avait enveloppé sa nudité coutumière dans un pyjama fleuri si étroit qu'elle boudinait de toutes parts. J'avais apprécié et je respectais cette pudeur nouvelle. C'est une fois de plus l'odeur du café et des crêpes qui m'avait extirpé de mon sommeil. Consuelo était assise devant un grand bol fumant dans lequel elle trempait une sorte de galette épaisse. Les mots, ce matin-là, étaient inutiles. Nous avions besoin, l'un comme l'autre, de partager ce moment dans le silence. Je la regardais mastiquer. Parfois, elle me décochait un sourire, puis replongeait dans son bol. Elle faisait durer le plaisir. À la troisième galette, mon estomac, comprimé par toutes les vicissitudes auxquelles il avait été confronté depuis la veille, a catégoriquement refusé de se soumettre au plaisir que j'éprouvais dans la dégustation. « Tu as aimé ?» C'étaient les premiers mots qu'elle me lâchait. « Elles sont délicieuses, tes crêpes, et bizarres avec tous leurs trous. C'est des bagrires, c'est une spécialité marocaine. » Délaissant exceptionnellement le triporteur, nous avions pris le chemin du centre-ville à pied. On aurait pu prendre le métro, mais à ce que j'ai cru comprendre, Spartacus y est particulièrement hostile. Consuelo avait épluché le beau teint, qui faisait jusqu'alors office de cale pour le fauteuil, pour dénicher l'adresse du magasin de déguisement. Le magasin en question se trouvait à quelques pas du square Wilson, qui en fait est une place circulaire, allez comprendre, dans la rue Maurice Fonvielle. Alexandre, le vendeur, avait rechigné à nous communiquer les coordonnées de Jojo, prétextant qu'il n'était pas autorisé à le faire, que nous n'avions pas l'air d'être de la police, et il avait raison, et qu'il espérait revoir très vite son costume car il avait des réservations en cours. Finalement, il s'y était résolu devant notre insistance et la complicité de Spartacus qui faisait la joie d'une famille en quête d'accoutrement pour une soirée festive. Le jeune garçon, particulièrement agité, avait choisi un masque d'un de nos anciens présidents de la République, spécialiste du nettoyage au Karcher et fin amateur de deniers libyens. L'appartement de Jojo se situait tout près du magasin d'articles de fête, dans la rue de la Colombette, au deuxième étage d'un immeuble tout en briques qui surplombait une galerie d'art. On y pénétrait par une porte verte qui ouvrait sur un couloir étroit où une douzaine de boîtes à lettres affichaient des patronymes plus exotiques les uns que les autres. Monsieur Achouche résidait au premier, en face de Madame ou Monsieur Tran Hai. J'ai toujours eu du mal avec les noms asiatiques. Les Fonseca devaient croiser les Goncalves et comparer la recette de morue. Enfin, il y avait, tout au bout, une boîte plus neuve que les autres. Georges Cambolive, deuxième étage, porte droite. Nous sommes au bon endroit, me fait remarquer Consuelo. Deuxième étage, me dis-je, en soulevant Spartacus pour le mener à bon port. Je le précise. Notre canidé avec son appareillage rencontre des difficultés pour gravir le plus ordinaire des escaliers. Tout juste s'il accepte les escalators. C'est vous dire si cet animal est complexe. Je me demande si Consuelo ne va pas évacuer sur le palier du second étage l'intégralité des bagrires consommées plus tôt, tant je la vois ahannée, les mains posées sur ses hanches. Je comprends qu'il ne doit pas être si facile que ça d'acheminer plus d'un quintal de matières organiques au-delà d'une trentaine de marches. Laissant la chanteuse recouvrer son souffle et éviter de souiller le devant de porte de Jojo, je cogne par trois fois. Il y a peut-être personne, finit-elle par hoqueter. Je maltraite mon index en martelant encore trois fois le bois de la lourde et laisse échapper. Il n'est pas là, peut-être. À mon avis, précise l'essoufflé qui, entre deux ahannements, retrouve sa faconde, il nous attend dans un congélateur du côté de Saint-Cypre. Et moi, je suis la reine d'Angleterre qui attend qu'on lui ouvre Buckingham Palace un soir en rentrant du pub du coin. C'est pas ce que je voulais dire, mais tu l'as dit. Au fait, t'as essayé la poignée ? Je passe pour un idiot, un demeuré à ses yeux, et elle en joue. La poignée résiste. Et sous le paillasson ? Bienvenida a México. Mes notions de castillan sont très limitées, mais je comprends l'invitation que propose l'essuie-pied. Malheureusement, pas la moindre clé dessous, mais beaucoup de poussière. Sur la façade de la porte, un crâne en céramique est suspendu. De grands yeux globuleux, comme deux pâquerettes bleues, un visage parsemé de petites fleurs des champs multicolores, des dents dessinées blanches, ourlées de noir, et au milieu, un nez rouge en forme de cœur inversé. Omnubilé par la serrure et par le paillasson, je n'ai prêté aucune attention à cet objet d'une dizaine de centimètres de haut. Consuelo, fine connaissance des cultures hispaniques, m'explique que ce doit être un symbole protecteur. Tu sais, les Mexicains sont très croyants. Je me lance et je retourne le petit crâne. Bingo ! Explose Consuelo. Spartacus s'agite dans mes bras, je le dépose à même le sol et muni de la clé, j'entreprends l'ouverture de la porte. Nous sommes aussitôt saisis par deux choses. D'une part, le froid glacial, la pièce n'est pas chauffée, et puis l'amoncellement d'objets, dont la plupart me sont inconnus, mais parmi lesquels je distingue un large chapeau de paille, une paire d'éperons, plusieurs pots en céramique outrageusement peinturlurés, je n'ai aucun goût avéré pour ce type d'objet, et les potiers me laissent indifférent. Près de la fenêtre, je découvre une sorte de poêle métallique dont la fonction initiale est celle de brasero de cuisson. Il y a une grille à grillade et que mon frère a vraisemblablement adapté en engin de chauffage. Le coin cuisine, ridiculement petit, et deux tabourets haut dépareillés se logent sous une planche de bois qui fait office de table et de plan de cuisine. Deux plaques en fonte bordent un évier en céramique écaillé par les coups de casserole, éterni par les années de détergent. Un placard, où l'on discerne les empilements des couches de peinture, affiche une modernité antique. Enfin, le lit. Un lit simple à une place. Jojo vivait seul, constate Consuelo, affichant un rictus de plaisir qui dissimule mal sa fausse joie de ne pas se trouver face à une rivale. Pas la moindre Norvégienne, fille du Nord au sang chaud en vue. Au-dessus du lit, une série de masques de cuir, décorés et bariolés, sont accrochés autour d'une photographie encadrée sur laquelle quatre énergumènes en costume de catcheurs, dont trois, exhibent leur musculature. Le lit n'est pas fait. Sur une brique de chantier, en guise de table de nuit, un album photo nous invite à la découverte. Voilà, en parlant de découverte, si vous voulez nous retrouver la semaine prochaine, je vous dévoilerai un nouveau chapitre. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions et toutes les rubriques de Patchwork sur la bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.com. .fr. À la semaine prochaine.
C'était Patchwork, une émission que vous pourrez réentendre ce soir à 23h, demain matin à 10h. Rendez-vous pour un nouveau patchwork mardi prochain à 19h.